Imaginons un instant. On prépare le portfolio professionnel le plus crucial de toute une carrière.
Le genre de dossier où on joue vraiment sa vie, quoi.
Ouais, exactement. Un dossier hyper minutieux, conçu pour impressionner, je sais pas, les plus hauts dirigeants possibles. Donc on y met des recommandations élogieuses, des diplômes prestigieux, le sans-faute absolu.
Normal, on veut montrer le meilleur de soi-même.
Voilà. Mais, et c'est là que ça devient bizarre. Au beau milieu de la toute première page, le candidat décide de mettre une énorme photo de lui en train de récurer les toilettes. Et pas pour n'importe qui, pour un de ses propres subordonnés.
Ah ouais, d'accord. L'effet serait, on va dire, déroutant.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Dans toute logique de relations publiques ou de consolidation du pouvoir, la norme, c'est de dissimuler ce genre de vulnérabilité. Ou au pire, de la cacher dans une note de bas de page que personne va lire. Afficher une soumission pareille de son plein gré, c'est presque un suicide communicationnel, en fait.
C'est clair, la logique voudrait qu'on affiche une démonstration de force. Démarrer une immense campagne publique par un acte de soumission totale, ça semble juste incompréhensible.
Complètement illogique selon nos critères, oui.
Eh bien, c'est précisément ce paradoxe qui motive notre exploration d'aujourd'hui. Les notes et les recherches qu'on va aborder se concentrent sur la 6e conférence du docteur Craig Kinner, un exégète qui décortique les chapitres 3 et 4 de l'Évangile de Matthieu.
Un travail vraiment fascinant au passage.
Absolument. L'objectif de notre analyse, c'est d'examiner comment le lancement public de Jésus, donc son baptême, son passage dans le désert, le recrutement de son équipe, comment tout ça pose les fondations de ce concept de royaume des cieux.
Et l'approche de Kinner est hyper stimulante, parce qu'elle nous oblige vraiment à abandonner notre lecture moderne ou, on va dire, un peu trop sentimentale de ces textes.
Ouais, on sort des clichés habituels.
Exactement, en replaçant ces textes dans les vrais rouages politiques, économiques de l'époque du 1er siècle, on observe une stratégie de lancement qui transgresse consciemment tous les codes de domination de l'Empire romain, et même de l'élite religieuse de l'époque.
Bon. Décortiquons tout ça, parce que les documents mettent en lumière des mécanismes historiques qui pulvérisent pas mal d'idées reçues.
Oh que oui!
On va découvrir, par exemple, que l'économie de la pêche en Galilée, c'était très loin de l'image des paysans pauvres et affamés qu'on a tous en tête. Et on va surtout voir pourquoi rassembler des foules à cette époque, sous l'occupation romaine, c'était jouer avec la mort, littéralement.
Un jeu très dangereux, ouais.
Mais reprenons notre analogie du portfolio et de la photo compromettante. Le baptême. Le récit présente Jésus, qui est censé être la figure d'autorité suprême, qui vient se soumettre au rituel de repentance de Jean-Baptiste, un prédicateur du désert. D'un point de vue narratif, ça affaiblit complètement la position du héros dès le départ, non ?
Ben, cette apparente faiblesse narrative, c'est en réalité ce qui intéresse le plus les historiens de l'Antiquité. C'est ce qu'ils appellent le critère de la gêne.
Le critère de la gêne.
C'est-à-dire, en gros, c'est un outil historiographique très classique. Le principe est simple. Si un texte ancien relate un événement potentiellement super embarrassant pour son auteur ou pour la cause qu'il défend, bah, y a très forte chance que cet événement soit historiquement vrai.
Ah, parce que si on invente une histoire de toute pièce, on va pas inventer un truc qui en fait honte.
Exactement. Un propagandiste qui veut créer un mythe héroïque, il n'imaginerait jamais une scène où son héros se soumet à une autorité inférieure. D'ailleurs, la grammaire même du texte grec trahit un certain malaise chez l'auteur.
Ah bon ? Comment ça se voit dans la grammaire ?
Eh bien, l'auteur utilise une construction participiale pour raconter le moment du baptême. C'est une technique rhétorique classique pour, disons, glisser hyper vite sur un fait qu'on peut pas nier, mais sur lequel on préfère vraiment pas s'attarder.
Genre, oui, il a été baptisé. Bref, passons à la suite.
C'est tout à fait ça. Et le texte montre même Jean-Baptiste qui essaie de refuser, ce qui souligne bien l'incongruité du truc. Il vient tout juste d'annoncer un juge cosmique et le gars se pointe pour un simple baptême d'eau.
C'est vrai que le contraste est énorme, mais juste après cette scène hyper humiliante, bam, la dynamique s'inverse de façon spectaculaire. Les cieux s'ouvrent et l'esprit apparaît sous la forme d'une colombe.
Oui, un moment charnière.
Et cette image de la colombe, je la trouve très intrigante, parce qu'aujourd'hui, on y voit direct le symbole de la paix. La colombe de la paix, c'est universel pour nous. Mais pour un lecteur juif du 1er siècle qui vit sous la domination de l'aigle romain, j'imagine que les codes sont différents.
Ah bah, le contraste avec l'aigle romain, qui est vraiment le symbole par excellence de la prédation et de la force militaire, il est flagrant. Ce qui est fascinant ici, c'est la résonance du symbole.
C'est pas juste la paix, alors
Non, pas du tout. Kinder rappelle qu'il y a bien quelques traditions rabbiniques qui comparent l'esprit à une colombe ou qui l'utilisent pour symboliser le peuple d'Israël. Mais la référence majeure, pour les gens de l'époque, elle est dans le livre de la Genèse, au chapitre 8.
Ah, la colombe de Noé!
Exactement. C'est la colombe de Noé. Le message encodé, c'est pas juste « la paix, on s'aime tous », c'est vraiment l'inauguration d'une nouvelle création. Les eaux du baptême font direct écho aux eaux du déluge. L'esprit signale qu'un nouveau monde émerge de l'ancien.
Un redémarrage total.
Voilà. Et à ça, il faut ajouter le phénomène vocal qui suit. Les rabbins de l'époque parlaient beaucoup de la « bat kol ». C'est une expression hébraïque qui veut dire littéralement « la fille d'une voix ».
La fille d'une voix.
Ouais. C'était super important à l'époque parce qu'on considérait que les grands prophètes s'étaient tus depuis genre 400 ans. Donc la « bat kol », c'était l'écho, la seule résonance de la voix divine qui restait accessible. Et là, cette voix prononce une phrase qui fusionne deux textes majeurs.
Lesquels ?
Le psaume 2, qui est le psaume du couronnement du roi davidique triomphant, le roi absolu. Et le chapitre 42 d'Ésaïe, qui décrit, lui, un serviteur obscur destiné à souffrir pour les autres.
Attends, fusionner le monarque absolu et le serviteur souffrant en une seule phrase. C'est redéfinir ce que veut dire être roi, en fait ?
C'est exactement ça, le but.
Mais logiquement, un leader qui vient de recevoir une validation publique pareille, un couronnement cosmique, il devrait capitaliser sur ce momentum, non? La stratégie classique, ce serait de marcher sur Jérusalem et de s'imposer devant tout le monde.
En politique classique, oui, mille fois oui.
Pourtant, la source note que l'esprit le pousse dans le désert. Et je crois que l'évangile de Marc utilise un mot grec assez fort pour ça.
Oui, le verbe « ekbalé ». Ça veut dire littéralement « jeter dehors » ou « expulser ». C'est hyper violent comme terme. Le baptême ne mène pas au palais. Il mène au creuset, à l'isolement total.
Et il y reste 40 jours, ce qui n'est pas un hasard, j'imagine. La symbolique numérique est forte.
Ah ben, les 40 jours renvoient direct aux 40 ans d'errance du peuple d'Israël, aux 40 jours de jeûne de Moïse sur le Sinaï, et même à l'épreuve du prophète Élie. C'est l'espace où ton identité est testée. L'adversaire, dans l'histoire, va d'ailleurs systématiquement attaquer la déclaration du baptême avec son fameux « si tu es le Fils de Dieu ».
Donc, le but des tentations, c'est de dicter comment ce pouvoir doit être utilisé.
Exactement. C'est une bataille sur la définition même du pouvoir.
Et on a trois propositions distinctes dans le texte. La première, c'est transformer des pierres en pain. On pourrait juste se dire que c'est utiliser la magie pour un confort personnel. Mais dans l'Empire romain, avec le fameux « du pain et des jeux », refuser de produire du pain magiquement, c'est presque refuser le modèle de l'empereur qui achète son peuple par l'estomac. Non.
C'est une excellente lecture. C'est un refus catégorique de la manipulation matérielle pour s'attirer les faveurs de la foule. Pas de démagogie.
Ok. Et la deuxième tentation ?
Elle se passe sur le toit du temple de Jérusalem. L'adversaire suggère un saut dans le vide, qui serait rattrapé de justesse par les anges.
Le grand spectacle, quoi.
Voilà. C'est le syndrome du visionnaire qui fabrique un faux miracle sur commande pour forcer l'admiration des foules massées en bas. Du pur charlatanisme spirituel.
Et ce qui est fou dans ce deuxième affrontement, c'est que le diable cite carrément les Écritures. Il utilise le psaume 91 qui dit que les anges porteront le juste. Mais utiliser le texte sacré comme une arme, c'est super problématique. Comment les gens sont censés faire la différence entre une bonne application d'un texte et sa manipulation si les mots sont exactement les mêmes ?
Et c'est là qu'on touche à une mécanique d'exégèse brillante que Kenner met en lumière. L'adversaire arrache le psaume 91 de son contexte global. Ce psaume promet bien la protection, mais pour quelqu'un qui subit une menace extérieure inévitable.
Pas pour quelqu'un qui se jette dans le vide exprès.
C'est ça, juste. Ça n'autorise jamais la création artificielle d'un danger mortel, juste pour forcer la main de Dieu. C'est de la manipulation théologique pure. Et la riposte de Jésus, elle s'appuie sur le Deutéronome en respectant scrupuleusement le contexte historique du texte.
D'accord, l'importance du contexte est primordiale. Et la troisième tentation, c'est la plus politique, je crois.
Oui, la domination instantanée sur tous les royaumes du monde en échange d'une allégeance au tentateur.
L'offre d'une révolution politique terrestre. En somme, surtout dans une Judée occupée, avec tous ces mouvements zélotes prêts à prendre les armes contre Rome, c'était sûrement ce qu'une grande partie du peuple attendait d'un messie, un chef de guerre. Le rejeter, c'est s'aliéner tous ces gens-là.
Complètement.
D'ailleurs, le docteur Kenner explique que cette idée d'être forgé par l'épreuve, c'est pas juste de la théorie pour lui. Il partage une expérience personnelle assez rude là-dessus, non ?
Oui, il se livre beaucoup. Il parle d'une période extrêmement sombre de sa propre vie, où il a fait face à de fausses accusations, des trucs qui semblaient avoir détruit toute son intégrité et le travail de toute sa vie. Il décrit vraiment une sensation de paralysie face à la douleur.
C'est fort de partager ça.
Ça l'est, et cette détresse l'a poussé à étudier l'état psychologique des grandes figures historiques qui ont été broyées avant d'avoir de l'influence. Il parle d'Élie, qui était tellement isolé qu'il était suicidaire sous un buisson, de David, traqué comme un criminel, de Jérémie, qui maudit le jour de sa naissance.
L'argument de Skinner, du coup, c'est que l'illusion de l'autosuffisance doit être purgée avant de pouvoir diriger.
C'est sa thèse, oui. Les leaders qui n'ont jamais affronté leurs limites ou leurs failles finissent souvent par utiliser le pouvoir de façon tyrannique. L'épreuve au désert garantit que l'autorité s'exercera par le service, pas par la domination.
Donc ils refusent le pouvoir égoïste. Et logiquement, un leader qui rejette la domination politique suprême ne va pas installer son quartier général à Jérusalem. C'est ce qui explique son choix d'aller vers le nord, en Galilée, et de s'installer à Capernaum.
Exactement, et ce choix géographique est tout sauf anodin. Mais pour bien le comprendre, il faut d'abord casser un mythe assez tenace.
Quel mythe ?
Au XXe siècle, certains théologiens, comme Walter Grundmann, et il faut préciser que ses travaux étaient directement liés à l'idéologie nazie, ont essayé de promouvoir l'idée que la Galilée était une région païenne, complètement séparée du judaïsme de Judée.
Ah ouais, carrément. Le but politique derrière ça, c'était de déjudaïser Jésus.
Exactement, d'en faire une sorte d'archétype arien. Mais les découvertes archéologiques modernes ont totalement pulvérisé cette théorie absurde. Les fouilles montrent que la Galilée était remplie de bains rituels, de vaisselle en pierre, des trucs qui prouvent une observance très stricte des lois de pureté juive. Donc la Galilée était profondément ancrée dans la tradition.
Donc s'installer à Capernaum, c'est pas du tout une rupture avec ses racines. C'est plutôt un choix tactique. Parce que Capernaum, c'est pas Tibériade, c'est pas très hellénisé. Mais ça a d'autres avantages.
Capernaum, c'est un véritable hub. C'est sur la rive du lac et c'est traversé par des routes commerciales majeures qui relient la Méditerranée à Damas. C'est un carrefour logistique incroyable pour faire rayonner un message rapidement.
Et ce fameux message, c'est la proclamation du royaume des cieux. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Parce qu'on parle de royaume, mais il n'y a pas de frontières, pas d'armée, pas de ministère visible. Comment les gens de l'époque comprenaient ce concept sans territoire physique?
Dans les langues originales, que ce soit en grec avec Basileia ou en hébreu avec Malkout, le terme ne désigne pas un endroit sur une carte. Ça désigne l'action de régner. C'est une souveraineté dynamique.
Un pouvoir en action.
Voilà. Et la grande difficulté, c'est la temporalité de ce règne. Les exégètes parlent de la tension du « déjà là, mais pas encore ». Le roi est là, donc l'autorité est formellement inaugurée, mais son application totale, sans plus d'injustice ni de souffrance, c'est pour plus tard. Si nous relions cela à une vision plus globale, l'apôtre Paul utilise plus tard un terme du vocabulaire commercial sémitique pour expliquer ça, la rabbone.
La rabbone, c'est le principe des arts, de la compte, c'est ça?
Tout à fait. C'est le premier versement qui garantit le reste.
C'est un peu comme, tiens, comme signer chez le notaire pour acheter une maison. On signe le contrat, on verse les fonds initiaux, on a les clés en main. Donc juridiquement, le déjà là, c'est bon, la maison est à nous, c'est incontestable.
Ouais, l'analogie est parfaite.
Mais le pas encore, c'est que la maison est peut-être vide, on n'a pas encore fait la peinture, on n'y a pas dormi une seule nuit. Donc, les miracles et les guérisons de Jésus, c'est cet acompte, c'est la garantie matérielle que le contrat final sera honoré.
C'est exactement comme ça que les premières communautés le vivaient, cette tension entre le contrat signé et la maison vide. Et vu que ce règne commence concrètement à s'exercer, il lui faut une administration. Et la façon dont il va recruter cette équipe de base sur les rives du lac, c'est en rupture totale avec les conventions de l'époque.
En quoi c'était si différent ?
Habituellement, dans l'Antiquité, un philosophe ou un grand rabbin n'allait jamais chercher ses élèves. Son prestige faisait que les jeunes venaient à lui et se battaient pour être acceptés. Là, le processus est complètement inversé. C'est le maître qui se déplace sur le lieu de travail des gens et qui les appelle au beau milieu de leur journée.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ces gens, ce sont des pêcheurs. Dans la pop culture, on s'imagine souvent des pauvres gars au bord de la famine, avec une vieille canne à pêche. Mais l'analyse socio-économique nous dit le contraire, non ?
Ah oui, on est loin du mythe du paysan pauvre. L'industrie de la pêche sur le lac de Galilée s'était hautement régulée et structurée. Les droits de pêche étaient loués par le gouvernement, le poisson n'était pas juste mangé sur place, il était salé, séché et transformé en garum, une sauce super prisée qui s'exportait dans tout l'Empire romain.
C'était une vraie industrie.
Exactement. Les textes disent même que la famille de Jacques et Jean avait ses propres bateaux et des ouvriers salariés. Ce n'est pas l'aristocratie, on est d'accord, mais c'est une vraie classe moyenne solide, des artisans entrepreneurs.
Mais alors, le fait qu'ils aient des entreprises prospères, ça rend leur décision encore plus dingue. Abandonner ses filets, son père, ses employés comme ça du jour au lendemain pour suivre un prédicateur qui voyage, c'est un scandale social à l'époque, non? Un abandon de famille pur et simple.
Ça y ressemble beaucoup, oui.
Comment la société pouvait tolérer un truc pareil dans une culture patriarcale?
Eh bien, il y a deux éléments de contexte pour comprendre. D'abord, un aspect très pragmatique. La pêche et l'agriculture, c'était saisonnier. Pendant la saison des pluies, genre de décembre à mars, les routes étaient boueuses, le commerce tournait au ralenti, donc s'absenter à cette période, c'était moins dramatique économiquement.
Ah d'accord. Et le deuxième élément?
C'est culturel et religieux. Il y avait des débats ouverts chez les rabbins sur le conflit entre le devoir familial et l'étude de la Torah. Par exemple, l'école de Shammai avait dû créer des règles très strictes pour limiter le temps qu'un homme pouvait passer loin de sa femme pour étudier.
Si on doit légiférer là-dessus, c'est que ça arrivait souvent et que ça posait un vrai problème social, en fait. Il y a même la légende de Rabbi Akiba qui illustre ça.
Oui, c'est une histoire sans doute exagérée, mais très parlante. Rabbi Akiba part étudier pendant 12 ans. En revenant, il est juste derrière sa porte et il entend sa femme dire à quelqu'un qu'elle serait prête à l'attendre encore 12 ans de plus si c'était pour la Torah.
Et il fait quoi?
Il fait demi-tour, sans même lui dire bonjour, et il repart direct pour 12 ans.
C'est fou.
Le récit montre à quel point on valorisait le sacrifice familial pour les choses divines. Donc ce que Jésus exige, ce n'est pas de répudier sa famille. Il condamne d'ailleurs ceux qui utilisent la religion pour ne pas s'occuper de leurs parents âgés, mais il demande une réorganisation des loyautés. L'allégeance au royaume passe avant la structure patriarcale.
Körner appelle ça une mobilité sociale descendante. Ils lâchent leur stabilité économique pour la précarité. Mais l'ironie de l'histoire, c'est qu'au moment même où ils font ce choix obscur, le mouvement de Jésus explose en termes de popularité. Au chapitre 4, on voit des foules massives arriver pour des guérisons. On dit même qu'on lui amenait des malades de toute la Syrie.
Oui, il y a sûrement un peu d'hyperbole dans la formule, mais l'affluence était réelle et massive.
Mais rassembler des milliers de personnes, surtout hors des villes, sous la Pax Romana, c'est s'attirer direct les foudres des légions, non?
Cela soulève une question importante, effectivement. La Pax Romana ne tolérait absolument aucun rassemblement incontrôlé. La peur d'une insurrection armée était constante. Donc, cette popularité soudaine était intrinsèquement dangereuse, autant vis-à-vis des Romains que du Sanhédrin à Jérusalem. Mais l'espoir de guérison était plus fort que la peur.
Et l'impact de ces miracles devait être bouleversant pour les gens de l'époque.
Kinner raconte une histoire incroyable pour illustrer cet impact psychologique, celle d'un de ses étudiants kényans.
Ah oui, avec sa mère et la petite fille paralysée, c'est ça?
C'est ça. Le père était désespéré, résigné, mais la mère a pris sa petite fille sur son dos. Elle a marché des heures, épuisée. Elle a même traversé une rivière super dangereuse, juste pour atteindre une église où on priait pour les malades.
Un acte de foi poussé par le désespoir absolu.
Et la petite fille a retrouvé la mobilité de ses jambes, selon le témoignage.
Et finalement, que ce soit au 1er siècle ou aujourd'hui, ces guérisons fonctionnent exactement comme l'arabon dont on parlait tout à l'heure.
Oui, la restauration physique est l'acompte de la restauration globale du monde.
Mais cette capacité d'attirer des foules en détresse, ça crée une adoration qui est, au fond, très conditionnel.
C'est le grand piège de la popularité de masse. Et l'évangile de Matthieu est très lucide là-dessus. Les mêmes foules immenses qui s'agglutinent au chapitre 4 pour toucher le guérisseur ont une psychologie très similaire à celle qui, quelques chapitres plus tard, crieront « Crucifiez-le devant Pilate ».
La dynamique de foule est complètement volatile.
Voilà. C'est pour ça que Jésus fuit souvent les foules. Il refuse catégoriquement de bâtir sa légitimité sur des sondages d'opinion, en quelque sorte.
En résumé, on a un dirigeant qui commence par un rituel d'humiliation avec son baptême, qui rejette la politique et la magie dans le désert, qui s'installe en province au lieu de la capitale, qui recrute des artisans de la classe moyenne et les pousse vers une mobilité sociale descendante, et qui fuit la popularité comme si c'était toxique. C'est le manuel exact pour ne pas réussir selon les critères du monde.
C'est le monde à l'envers. Et pourtant, sur un plan plus personnel, on remarque que les compétences de ces gens n'ont jamais été jetées à la poubelle. Elles ont juste été réorientées.
C'est-à-dire?
Ces pêcheurs comprenaient les cycles de l'eau, l'économie, comment gérer une équipe. Ces compétences leur ont servi pour structurer un mouvement mondial. Kinner dit d'ailleurs que, jeune, il détestait devoir traduire la guerre des Gaules de Jules César. Il trouvait ça inutile pour sa foi. Mais des décennies plus tard, c'est sa maîtrise parfaite du latin et du grec qui lui permet de décortiquer ses textes avec autant de précision.
Rien n'est gaspillé.
C'est génial de voir ça. L'expérience passée devient le matériau de l'œuvre future. Ce qui nous ramène à notre analogie de départ. Le CV parfait avec la photo de nettoyage des toilettes en couverture. C'est pas une erreur de com, c'est l'essence même du message.
L'autorité s'acquiert par un service radical, souvent dans l'ombre, pas en écrasant les autres. Et c'est là-dessus qu'on va laisser ceux qui nous écoutent réfléchir. Dans notre monde d'aujourd'hui, où la valeur d'une idée ou d'une personne se mesure au nombre de likes ou d'abonnés, où le but est de saturer l'espace pour avoir de l'attention constante, imaginez ce qui se passerait si nos leaders adoptaient ce modèle de mobilité sociale descendante. Si le sommet de la réussite n'était plus la popularité, mais un service rendu dans l'anonymat. Ça changerait pas juste qui on élit ou qui on recrute, ça renverserait toute notre conception de ce qu'est l'influence. Un changement de paradigme qui donne pas mal de matière à réflexion pour aujourd'hui.